Troisième partie, libération. La vie courante est un circuit fermé, régulé d'une manière implacable par la loi de causalité. C'est la raison pour laquelle, depuis l'Antiquité, notre existence est symbolisée par un labyrinthe dans lequel nous nous perdons de temps à autre en cherchant la sortie. Nous ne pouvons nous libérer de ce labyrinthe que par un seul sentier, qui doit être trouvé au moyen de toute notre intelligence sur le fondement ferme de l'initiation et dans l'état de conscience de l'éveil. Dénouer le nœud. Le concept de libération nous mène directement à l'idée de donner libre cours à quelque chose qui est retenu. Ce quelque chose qui est retenu a les qualités nécessaires pour agir selon sa propre nature et ainsi être libre. Mais autre chose l'en empêche. Nous utilisons souvent une métaphore pour illustrer cette idée. Un morceau de bois attaché à une pierre est retenu au fond d'un lac. Aussitôt que l'on coupe la corde, le morceau de bois de lui-même et sans aucune aide remonte à la surface du lac. La même idée est contenue dans le mot « libération ». L'être divin éternel est assujetti à la matière dense par un lien puissant. Mais il suffit que l'on relâche ce lien, il suffit que l'on dénoue ce nœud, pour que l'être divin, exprimant sa vraie nature, émerge dans son monde et abandonne la sphère d'existence dans laquelle il était retenu. Le tapis magique. Des trois parties qui forment cet ouvrage, celle que nous allons maintenant vous présenter est sans doute la plus complexe et la plus difficile à expliquer. Néanmoins, comme pour les précédentes, nous pensons que vous ferez un effort de compréhension, d'imagination et de sensibilité pour capter ce qui est derrière les mots. S'il est vrai que nous voyons dans l'être humain deux principes, deux noyaux vitaux, à savoir un principe divin et un principe planétaire, le premier étant immortel et le second mortel, ces deux principes s'expriment dans une structure triple. Cette structure triple, nous la définissons comme une structure spirituelle, une structure de l'âme et une structure corporelle. À partir de maintenant, nous les désignerons plus simplement sur le terme esprit, âme et corps. Comme nous l'avons dit, ces deux principes, les deux noyaux vitaux, s'entremêlent dans les trois structures. Quand nous parlons de notre structure corporelle, nous voyons que le cœur, par exemple, est un organe extraordinairement singulier, parce que les deux natures y confluent. En effet, lorsque nous parlons du principe divin dans le corps, nous parlons de la rose du cœur. La structure du cœur répond pleinement aux deux principes vitaux, et les deux s'entremêlent dans cet organe si spécial. Nous pourrions dire la même chose de la structure de l'âme. Cette structure de l'âme, selon notre compréhension de la vie, est formée de cinq fluides. Le fluide sanguin, le fluide hormonal, le fluide nerveux, le fluide spinal et le fluide de la conscience. Si nous observons ces cinq fluides, nous voyons que le fluide sanguin est le plus tangible, le plus concret, et qu'il est, de ce fait, celui qui est le plus lié au corps. Le fluide de la conscience est, de son côté, le plus subtil et le plus mystérieux. Il est le plus relié à la structure spirituelle. Les trois autres fluides, le fluide hormonal, le fluide nerveux et le fluide spinal, forme le noyau central de l'âme dans la structure de l'âme. Désignons cette structure spirituelle par le terme microcosme. Selon cette vision, le microcosme est une structure de lignes de force extraordinairement complexe, englobant une sphère électromagnétique. Si vous vous souvenez de l'image avec laquelle on représente un atome, vous pourrez imaginer sommairement ce que nous voulons dire par ligne de force. Cette sphère électromagnétique est une projection dans l'espace-temps de l'étincelle divine, de la monade ou être divin primordial. Cette structure se projette elle-même dans le champ électromagnétique du cerveau. Nous pouvons donc affirmer que l'être divin et l'être charnel sont unis par un triple filet psychophysique, un filet dans la structure spirituelle, un autre dans la structure de l'âme et un troisième dans la structure corporelle. Ces trois filets, ou ce triple filet, est formé tant par des fils appartenant à l'être charnel que par des fils appartenant à l'être divin. Pour imager notre propos, nous pourrions dire que dans ce filet, les fils de la chaîne émanent de l'être divin et que les fils de la trame émanent de l'être naturel. Plus la vie d'un être humain est remplie d'expériences, plus le tissu est serré, plus il contient de formes et de couleurs, plus il a de possibilités. Dans l'Antiquité, on appelait ce filet le tapis magique. Ce tapis magique appartient en propre et en pleine propriété à l'être humain qui s'est libéré et qui dispose d'une liberté de mouvement sur tous les plans de la matière et de l'esprit. Or, la libération n'est pas autre chose que la suppression de tout ce qui empêche cette liberté de mouvement. Mais comme vous pouvez le supposer, obtenir cette liberté n'est pas une chose facile. Mettons-nous à la place d'un être humain qui est passé par les phases précédentes, celles que nous avons décrites dans nos deux premières parties, c'est-à-dire un être humain qui a réussi à purifier sa triple structure au maximum de ses possibilités, au point que cela soit visible dans la composition de son sang. Un être humain qui, grâce à cet état de purification, peut parcourir avec quelque chance de succès un chemin d'initiation, lequel est couronné par une complète illumination, connaît un état d'éveil semblable à celui d'une personne qui serait renée au sens spirituel. Un tel être humain vérifie dans sa conscience que le travail alchimique authentique est bien maintenant devant lui, et que tout ce qu'il a vécu jusqu'alors, tous les changements qui se sont produits dans sa vie, ont eu lieu dans l'espace intime et intérieur de son système humain. Or maintenant, grâce à sa nouvelle conscience ouverte et pénétrante, il découvre qu'il y a un lieu, un espace, qui lui était resté complètement voilé. C'est l'intérieur du plus intérieur. Dans l'Antiquité, ce sanctuaire était nommé Sanctum Sanctorum. C'était le lieu le plus saint de ce qui était saint. Dans ce noyau du noyau du noyau de notre système vital convergent tous les fils qui constituent notre tapis ou filet vital. Nous avons employé trois fois le mot noyau, non pour des motifs esthétiques, mais parce que c'est ainsi qu'il convient de le dire. C'est un noyau qui est à l'intérieur d'un noyau, lui-même contenu dans un autre noyau. Ce dernier constitue ce que nous décrivons comme notre fort intérieur. En dessous et à l'intérieur de ce fort intérieur se trouvent encore deux noyaux de plus, l'un à l'intérieur de l'autre. Ce noyau central peut être décrit comme un véritable prodige, car c'est là que se construit la réalité. Quand cet homme pénètre pour la première fois dans ce lieu, il découvre sa véritable identité et sa véritable histoire. Mais il ne le fait pas comme s'il pénétrait dans le tunnel du temps, ce qui pourrait le conduire d'avant en arrière, ou en avant et encore plus loin sur les rails du temps. Non, car ici le temps ne se comporte pas de cette manière. C'est le lieu de l'éternel présent. Et de ce fait, tout se trouve là, simultanément, dans le présent. C'est ainsi que lorsque cet homme éveillé comprend tout ce qu'il contemple, il découvre qu'il existe un point très concret où son triple système est assujetti ou attaché à la sphère d'existence planétaire et que, de ce fait, toute son essence divine est liée et retenue à la roue de la vie et de la mort, au circuit incessant du naître, croître et mourir. Il sait alors qu'il lui suffit de dénouer le filet de ce point pour que sa barque puisse commencer sa traversée, pour que son être divin puisse émerger dans le monde de l'esprit divin. Mais en même temps, il sait que s'il le fait, il lui arrivera ce qui nous arrive quand nous nous réveillons le matin. Tout ce que nous avons vécu pendant la nuit nous semble être un songe irréel. C'est-à-dire qu'en dénouant ce nœud, il perdra peu à peu tout contact avec ce qui auparavant lui paraissait réel. Et à la place apparaîtra la vraie réalité qui éclipsera tout l'antérieur. Pour un tel être, la tentation d'abandonner cette vallée de larmes est très forte. Mais il est clair que celui qui en est arrivé à ce point ne le fera jamais. Celui qui en est arrivé au point où la libération est à la portée de sa main déclinera cette option pour la remettre à plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la loi d'amour attend de lui qu'il reste en contact avec ses semblables encore endormis, pour les aider autant que possible à parcourir leur propre chemin de purification et d'initiation. C'est le fondement du principe chrétien qui dit que Jésus-Christ renonça à la gloire qui était la sienne pour pouvoir aider ses frères, les hommes. C'est également sur ce fondement que dans la tradition hindoue, les bodhisattvas renoncent au paranirvana pour rester en contact avec les êtres humains et les aider. Il n'existe pas de plus grand sacrifice que celui-là. Cela engendre de tels effets sur notre planète qu'ils sont la cause de nombreux phénomènes se passant journellement et que nous ne pouvons pas expliquer. Donc vivre sur ce plan d'existence, en disposant de cet état de conscience et de cette vision de la réalité, crée un puissant champ magnétique dans l'atmosphère qui accélère le processus d'éveil de milliers, de centaines de milliers d'êtres. La Rose-Croix se consacre à ce travail. C'est pour cela que nous disons que la Rose-Croix d'Or est une école des mystères. Son centre de gravité essentiel se rencontre dans la sphère nucléaire du noyau le plus central. De là, elle apporte jour et nuit un courant d'amour et de force vers l'humanité. Son but consiste simplement à poursuivre cette œuvre, jusqu'à ce que tous les êtres humains aient atteint l'état d'éveil. Dans la sphère centrale la plus nucléaire, le temps se présente autrement. Demain, hier et aujourd'hui se manifestent comme un tout. Nous savons ainsi que la victoire finale est déjà accomplie. Mais nous savons aussi que ce que nous sommes existentiellement à l'extérieur de l'extérieur devra passer par un grand nombre d'épreuves et de désagréments, jusqu'à ce qu'un jour nous rencontrions le présent de cette victoire. Nous conclurons cette troisième partie avec quelques paroles extraites du livre Fama Fraternitatis RC, publié par l'Ordre de la Rose-Croix en 1614, et qui, à notre avis, souligne ce que nous venons d'exposer. Bien que nous sachions parfaitement que le temps est loin d'être venu où, selon notre désir et notre attente, doit se produire une réforme générale divine et humaine dans toute son étendue. Il n'est pas déraisonnable que le soleil, avant de se lever, projette dans le ciel une lumière claire ou sombre, dans laquelle quelques-uns viendront se rassembler pour agrandir notre fraternité par leur nombre et leur réputation, et, grâce à la règle philosophique désirée et édictée par Frère C, feront un heureux début ou bien profiteront avec nous en humilité et amour de notre trésor qui ne pourra plus nous échapper, adouciront la douleur de ce monde et n'erreront plus en aveugle parmi les merveilles de Dieu. Nous espérons que cet exposé en trois parties a pu apporter un éclairage et une compréhension suffisante des processus qui peuvent se développer en l'homme, de sorte qu'une idée plus concrète sur la véritable destinée de l'être humain ait pu surgir. Et si un jour la gnose, la sagesse divine, vous interroge et vous pose la triple question, nous espérons de tout cœur que ce jour-là, vous puissiez lui donner les réponses suivantes. Qui es-tu ? Je suis un rayon de ton soleil invisible. D'où viens-tu ? De toi. Où vas-tu ? Vers toi. Épilogue. Connaître et ne pas le savoir, voilà la perfection. Ne pas connaître et se croire sage, voilà le mal. Connaître le mal lui-même, c'est se libérer du mal. Le sage ne souffre pas parce qu'il le reconnaît. Il n'en souffre pas. Tao Te King. Ces paroles du Tao Te King ont un rapport direct avec le début de cet exposé, avec l'invitation initiale de n'oublier à aucun moment la différence entre savoir et connaître. Il existe nombre d'êtres humains pourvus d'un immense savoir. Mais la connaissance essentielle, la gnose, la véritable connaissance de l'essence et des causes véritables, est un don peu fréquent. La première chose nécessaire pour nous guérir d'une maladie, c'est de reconnaître que nous sommes malades. Sans cette reconnaissance, il ne peut y avoir de guérison. La même chose a lieu avec les maladies spirituelles. L'ignorance, c'est-à-dire l'absence de connaissances véritables. La cécité, c'est-à-dire l'impossibilité de contempler la vérité. La paralysie, l'implacable assujettissement à la loi de la gravité et de la cristallisation. Seuls peuvent en guérir ceux qui se rendent compte qu'ils en souffrent. Toutes les écoles spirituelles de bonne foi se dédient à la guérison de ces trois maladies fondamentales. L'ignorance se guérit par le processus de l'initiation. La cécité par le processus de l'illumination. Et la paralysie par le processus de libération. Si vous méditez sur tout ce que nous avons évoqué, vous arriverez vous-même à des conclusions qui vous surprendront. Vous comprendrez le sens de la parole biblique « Mon peuple se perd faute de connaissance ». Et vous saurez pourquoi on dit de Jésus-Christ qu'il se dédia à la guérison des aveugles et des paralytiques. Vous comprendrez que les récits et les paraboles renferment une réalité très différente de celle que vous avez peut-être perçue jusqu'à maintenant. Pour terminer, nous aimerions vous apporter une image qui embrasse le contenu de ce livre. La purification se rapporte au fait de donner à la terre une semence afin qu'elle puisse germer. L'initiation concerne le déploiement du plan contenu dans la semence jusqu'à produire un arbre. L'illumination se rapporte à la floraison et la libération au fait de donner des fruits. Dans ces fruits est enfermée, comme un présent caché, la semence d'un nouvel arbre. Tout ce que nous avons exposé au long de ces pages est abondamment évoqué dans le livre de la nature.